Bonsoir à tous. Écoutez, merci de m'accueillir pour cette sixième fois, parce que bon, c'est courageux aussi de votre part, parce que je vois toujours les mêmes têtes. Certaines changent, mais il y en a qui récidivent tous les ans. Donc pour la sixième année consécutive, quand même, donc merci à vous, et bravo à vous de me supporter à chaque fois. Je dois dire que les sujets, ça va être de plus en plus dur, hein, parce que le Tour de l'Italie, on commence à l'avoir fait, mais bon, j'ai d'autres idées pour les années à venir. On va toujours pouvoir trouver autre chose. Comme Madame Stalen l'a dit, on a pas mal fait le Tour de l'Italie. Donc là, on arrive plutôt le côté nord-est, sachant que, le Frioul, les lacs, c'est bien, mais il n'y a pas une gastronomie très spécifique, autant vous le dire tout de suite. Donc ceux qui venaient juste pour ça, c'est un peu dommage. Il y a quelques produits spécifiques dont on va parler, mais c'est vrai qu'il y a quand même une gastronomie de Vénétie qui est quand même, on va dire que c'est un peu le gros morceau de ce dont je vais vous parler ce soir, parce que c'est quand même un carrefour. Enfin, je ne vais pas complètement faire la conférence dès maintenant, mais c'est vrai qu'il y a, pour beaucoup de raisons, on va beaucoup parler de Vénétie, pas mal de Venise, mais pas que, un peu du Frioul, un peu des lacs. Et puis j'ai rajouté aussi un petit peu le Trentino, l'Alto Adige, parce que malgré tout c'est des petites régions, il n'y a pas de quoi faire une conférence entière, mais on a quand même de quoi parler un petit peu sur des produits très spécifiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, j'essaierai d'y répondre si je peux. Alors, de quoi allons-nous parler ce soir ? On va parler un petit peu de géographie. Certes, c'est pas la gastronomie, mais au fil du temps, on s'est quand même rendu compte, et j'espère avoir au moins transmis un message, c'est que la géographie, l'histoire, l'économie ont quand même une influence sur la gastronomie. À aujourd'hui, un peu moins, on va dire, puisque les transports sont faciles et il y a moins de contraintes. Mais à une époque plus ancienne et plus reculée, où les transports se faisaient moins bien, où les conditions de conservation ou de transport étaient moins bonnes, il y avait moins le choix. Donc une grosse partie de l'héritage gastronomique est quand même liée à la géographie, mais aussi un peu à l'histoire, et pas mal à l'économie. On va parler un peu de spécialités connues, mais aussi j'espère bien vous en faire découvrir quelques-unes, parce que bon, il y a des grands classiques quand on parle de la cuisine de Vénétie, il y a des grands classiques. Dans les spécialités du Frioul, les spécialités du lac, mais il y en a aussi des moins connues, au moins pour moi, peut-être pas pour vous. Évidemment, c'est aussi, enfin, ces conférences, j'ai grand plaisir à venir ici tous les ans parce que c'est aussi un moment de partage et que ça me permet aussi de m'enrichir moi par vos connaissances parce que dans bien des domaines, vous en connaissez plus que moi sur l'Italie. Et puis bon, quand même, on va pas finir comme ça. J'ai rapporté quelques petits trucs à grignoter pour finir la soirée. Alors, donc comme je vous disais, on commence à avoir à peu près fait le tour de l'Italie. Il reste plus grand chose, hein, pour l'année prochaine. Il doit nous rester le Val d'Aoste, mais enfin c'est un peu petit. Donc on va parler plutôt du petit coin nord-est, la Vénétie, le Frioul, un petit peu le Trentino Alto Adige et un peu les lacs aussi. Comme on peut le voir tout de suite, c'est quand même assez isolé, on va dire, du reste de l'Italie. Entre ce qu'on a pu faire l'année dernière sur la Sardaigne et la Sicile, ou ce qu'on avait fait une année précédente sur le grand sud de l'Italie, on est quand même assez loin géographiquement. Donc assez loin aussi en termes de produits, assez loin en termes d'habitudes culinaires, mais assez loin aussi en termes d'influence. Les dernières fois, on avait beaucoup parlé des influences plutôt du bassin méditerranéen, des pays du Maghreb. Là, on est quand même très très loin. On est plutôt sur des influences suisses, sur des influences autrichiennes, sur des influences plutôt des pays de l'Est, mais aussi sur des influences du Grand Est. À une période où tout circulait en bateau, on est aussi sur des influences indiennes, sur des influences orientales, mais vraiment loin. Donc une situation particulière, comme on a commencé à le voir un petit peu, c'est une région qui est une région frontalière. Alors vous direz, ça arrive souvent en Italie que ce soit une région frontalière, soit par la mer, soit par la terre. Là, en l'occurrence, c'est une frontière des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez une frontière terrestre, et on va dire que c'est une vraie frontière parce que c'est des frontières de montagne, Donc bon, maintenant on les franchit, mais à une époque c'était pas aussi facile que ça de les franchir. Donc il y a quand même tout un... C'est à la fois une région qui est isolée par ce point-là, mais aussi une région qui est la succession, la suite de la Suisse, de l'Autriche, de tout ce qui est pays de l'Est par la suite. C'est aussi une frontière maritime, mais c'est aussi un peu un cul-de-sac, si vous voulez, quand vous prenez pour remonter. Quand vous arrivez au niveau de Venise ou de Trieste, vous êtes un peu en cul-de-sac quand même, puisqu'après le reste... Donc c'est pas non plus c'est pas une route de passage, c'est une route de destination. En termes de topographie, une fois encore, on est sur des régions, puisque bon, il y a quand même plusieurs régions qui sont traitées ce soir. La mer, évidemment, mais il y a aussi des lacs, il y a aussi des montagnes, des grandes, des petites. Il y a aussi des grandes plaines. En Vénétie, il y a aussi des grandes périodes, des grandes régions de plaines. Donc il y a une grande variété topographique. Qui dit grande variété topographique dit une grande variété d'agriculture, puisque c'est une grande partie de la gastronomie est quand même liée à l'agriculture locale, une grande partie d'élevage, donc beaucoup, beaucoup de variétés, et qui dit mer et lac dit aussi poisson. Cette région, c'est aussi une autre particularité, même si en Italie ça arrive assez souvent, c'est que c'est une région qui est italienne, mais qui n'a pas toujours été italienne. Et qui n'a pas toujours voulu être italienne, même quand elle l'a été, ça a toujours été un petit peu, bon, la cité des Doges, c'est Italie sans lettres quand même, c'est un peu le petit... C'est un peu à part, c'est pas tout à fait, c'est l'Italie sans lettres complètement, ça a été, selon les régions, le Frioul, le Trentino, ça a été un peu suisse, un peu autrichien, un peu au milieu, un peu des deux... avant de finir italien. Donc c'est vrai que ça a influencé aussi la gastronomie, la façon de consommer, la façon d'utiliser les produits. La dernière région, enfin le côté un peu particulier, c'est une situation économique. Et là, en l'occurrence, on est plutôt sur une situation économique, même aujourd'hui, qui est assez favorable. C'est plutôt une région riche et dynamique. Autant quand on avait fait le Grand Sud, on était sur des régions qui étaient plutôt des régions pauvres. Là, on est plutôt sur des régions riches. Plutôt sur des régions qui sont dynamiques. Une grande richesse industrielle, bon, ça, on va dire que ça nous concerne un tout petit peu moins. La conséquence de ça, c'est que malgré tout, du coup, c'est pas des grandes terres agricoles à plus en finir. Le côté agricole de la chose a quand même été assez réduit. C'est une terre de commerce depuis toujours, puisque bon, Venise a toujours été, et les ports en Trieste, et dans tous ces ports-là ont quand même toujours été des ports de commerce. Donc qui dit commerce dit arrivée et départ de produits, dit transit de produits, mais qui dit commerce dit aussi une certaine richesse en général. Et c'est quand même une région d'agriculture et notamment de viticulture. On va dire que quand on demande à un Français moyen de citer des vins italiens, assez vite, évidemment vous avez le Chianti, mais assez vite en numéro 2 ou numéro 3, vous allez avoir le Valpolicella ou le Bardolino. Pour, on va dire, un peu de mauvaise raison, parce que c'est un peu les deux seuls trucs qu'on trouve souvent en qualité assez médiocre dans les pizzerias, mais toujours est-il que c'est dans les vins un peu connus, on est assez vite sur des vins de Vénétie. Des questions, des commentaires ? Donc tout ça pour dire qu'on a une gastronomie qui est quand même sous influence, comme souvent. Sous influence étrangère, évidemment, les pays frontaliers, l'Autriche, la Suisse, on va voir ça beaucoup quand on va parler des charcuteries, mais aussi quand on va parler de certains fromages, où on est sur des influences assez fortes de la Suisse ou de l'Autriche. D'influence orientale, et notamment via les épices. Une période où l'épice n'était pas forcément le truc le plus utilisé, notamment dans la cuisine vénitienne, il y a pas mal d'épices parce que c'était une denrée qu'on trouvait via le commerce et via le port. Une gastronomie sous influence marine ou maritime, on va dire, produits de la mer ont une place de choix, même s'il n'y a pas que des produits marins et des régions maritimes, il y a quand même une grande influence des produits de la mer, des produits du lac aussi, produits de la pêche, et en faisant un peu de recherche sur pour cette conférence, je suis tombée sur un article assez intéressant disant aussi l'une des conséquences aussi du fait d'avoir une influence marine, c'est que dans la marine ou dans les bateaux, on est habitué à ne rien gâcher. Quand on voyage en bateau, on emmène le minimum, mais on jette le minimum aussi. Donc en fait, il y a toute une, on va dire, une logique gastronomique, logique culinaire, qui consiste aussi à tirer le meilleur de tout ce qu'on peut avoir et utiliser les différents morceaux. Et bon, ça m'a tout de suite fait penser qu'il y a peut-être pas, c'est peut-être pas complètement anodin si dans la région de Venise, par exemple, on mange beaucoup d'abats. Parce que dans la famille, on gâche rien. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un foie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des abats? Et c'est vrai que c'est pas forcément une habitude culinaire qu'on trouve énormément dans le reste de l'Italie. Et là, pour le coup, il y a pas mal de recettes, notamment autour du foie, évidemment, on en parlera tout à l'heure. Le dernier type d'influence, on va dire que ça, c'est un peu comme d'habitude, une influence locale. Qu'est-ce qu'on peut produire localement? On produit du vin, mais aussi on produit de la salade à certains endroits, on produit des asperges qui sont très connues. On produit un certain nombre de choses, une grande production de pommes, notamment dans le nord, dans le Trentino. Et du coup, c'est vrai que ça sert de base à des spécialités locales, à des produits régionaux. Des questions, des commentaires? Non, j'ai remis tout le monde, c'est bon. Alors, on va commencer. En fait, cette fois-ci, j'ai pas refait par petite région, parce que du coup, comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, la Vénétie aurait eu les 4/5 de la conférence, et après, je vous aurais fait une petite page sur chaque, donc j'ai trouvé que c'était moins intéressant. Donc cette fois-ci, on va le faire à l'envers, en plus comme ça, ça vous changera un peu, pour ceux qui connaissent par cœur les 5 précédentes, vous vous rendrez compte que c'est un petit peu différent. J'ai fait par type de produits. Et on va commencer par les produits de la mer et du lac. La grande star, on va dire, des produits, notamment de la cuisine de Vénétie et pas mal à Venise, c'est la morue. Alors vous allez me dire, c'est plutôt portugais ce truc-là, ou c'est plutôt norvégien, ou c'est pas très local. Et ben non, quand on regarde, il y a une multitude de recettes qui sont à base de morue, dans la cuisine vénitienne notamment. La raison, c'est clairement que la morue, enfin le poisson séché, en l'occurrence la morue, c'est typiquement un produit qui se transporte bien, donc à voyager, qui se garde longtemps. C'est plutôt un produit, on va dire, pas trop onéreux. C'est un produit qu'on peut assez facilement mélanger avec de la pomme de terre dans certaines régions, mais à Venise, on en parlera un peu tout à l'heure, ça se mélange surtout avec de la polenta. Donc c'est vrai que le grand la morue, c'est vraiment un des grands classiques de la cuisine vénitienne. Alors là, vous l'avez sous toutes ses formes, ce qu'on appelle mantecato, qui est un peu une forme de brandade. Vous l'avez alors j'avais complètement oublié, il y en a un, parce qu'il y a stockfish, c'est de la morue séchée, et bacala, c'est la morue salée. Oui, mais il y en a un, c'est salé, l'autre c'est séché. Apparemment, il ne faut surtout pas se bourrer, parce que évidemment, bacalao, c'est la morue séchée, salée, et stockfish, c'est la morue séchée. Alors, dans certains cas, vous utilisez l'une ou l'autre. Et quand vous faites la brandade, se fait avec la bacalao. Et là, pour le coup, c'est plutôt la morue salée. Mais vous avez aussi des sortes de marinades, vous avez énormément de plats avec de la morue. Vous avez l'anguille, qu'on trouve beaucoup dans les lagunes, ça fait partie de la cuisine, la gastronomie lagunaire, vous avez beaucoup de recettes aussi à base d'anguille. Là aussi, c'est une forme de, on va dire, les recettes les plus fréquentes, ça ressemble un peu à une matelote en fait, c'est un peu ce genre de plat très, très cuisiné. Donc ça, on est plutôt sur des pêches un peu particulières, l'anguille dans les lagunes, la morue, le cabillaud, il se trouve plutôt dans le nord et il était plutôt rapatrié par les bateaux. On arrive sur de la pêche locale et notamment les sardines. Et l'une des recettes phares en fait de la cuisine vénitienne, c'est la sardine dans une forme de marinade, beaucoup de marinade dans la cuisine vénitienne, qui est une marinade avec du vinaigre et des oignons, qui s'appelle Saor, S-A-O-R, avec un accent. et qui est vraiment la marinade assez typique vénitienne. Et on mange beaucoup cette sardine, donc les filets de sardine, la sardine levée en filet, marinée dans cette marinade un petit peu, assez vinaigrée. Les poissons de lac, alors là je ne vais pas vous faire la liste, parce que alors qu'est-ce qu'on en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Énormément de choses autour de la perche, notamment beaucoup beaucoup de perches, des brochets, beaucoup de poissons qui sont, alors selon, pour le coup là c'est pas forcément des poissons qui sont très cuisinés. Dans la gastronomie autour des lacs, que ce soit bon, lac de Caume, lac Majeur, vous avez plutôt une tradition du poisson assez grillé, on va dire que c'est pas une cuisine très élaborée où le poisson n'est pas travaillé tellement, il est plutôt utilisé tel quel, assez nature, avec évidemment du fenouil, avec un peu d'herbe, mais plutôt une culture de poisson assez grillé, assez naturel. Donc pas mal de produits de la mer. Le dernier produit de la mer, on en parlera tout à l'heure un peu avec quand on parlera des pâtes. Il y en a deux autres, je vais en parler, toucher deux mots maintenant. C'est d'une part tout ce qui est les vongolais, les clovis en français, je crois, qui sont un peu intermédiaires. C'est un peu plus gros que la coque, mais un peu plus petit que la palourde. Et là, pour le coup, c'est une des recettes phares de la cuisine vénitienne, les spaghettis ou linguine à les vongolais. Qui est absolument divin. Ça, c'est... Le problème en France, c'est qu'il faut juste trouver les vongolais, parce que si vous trouvez les vongolais, c'est assez facile à faire finalement, parce qu'il faut juste les faire. En général, on les fait revenir avec un petit peu de vin blanc, et verser presque tel quel sur des pâtes, avec un petit oignon, et c'est absolument divin. Mais en France, on trouve assez difficilement les vongolais. Ça marche assez bien avec des palourdes. Hein. Et le deuxième élément, c'est tout ce qui est les sèches, les calamars et notamment l'encre de sèche. On en parlera un peu tout à l'heure. Énormément de recettes à Venise, risotto à l'encre de sèche, pâte à l'encre de sèche. Très très beau produit. Donc les féculents, on y arrive. Alors cette fois-ci, je vais vous parler un peu moins des pâtes. Il y a des fois comme ça. En général, quand on fait la gastronomie italienne, on y passe un bon moment. Là, on va aller beaucoup plus vite sur les pâtes. C'est un petit peu moins qu'ailleurs une culture de consommation de pâtes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en mange pas. Je viens justement de vous mentionner deux des recettes les plus célèbres, on va dire, de la cuisine vénitienne. Les pâtes à les vongolais et tout ce qui est avenero di seppia, l'encre de sèche. Il y a un type de pâte qui est très connu, qui sont les bigoi, qui sont... est-ce que vous connaissez les bucatini? Ou les pici en Toscane? Ben, c'est un peu dans le même... c'est dans le même esprit. C'est les gros spaghettis avec un trou à l'intérieur. Donc ça, pour le coup, sont les pâtes les plus connues. Et ça, ce sont des pâtes typiques de Venise. Alors, apparemment, parce qu'il y a l'air d'avoir débat sur le diamètre... ce que je vais chercher dans plusieurs sources, donc je ne sais pas si vous avez une information sur le diamètre respectif, mais il semblerait que le bucatini des trois ce soit le plus petit, que les pici qu'on trouve en Toscane soient un peu plus gros et que les bigoi soient encore un peu plus gros, et qu'au-dessus de ça vous ayez les ziti lunghi qui pour le coup sont vraiment les macaronis longs. Donc c'est intermédiaire entre le ziti lunghi et le pici toscan. Donc ça, ce sont des pâtes avec un trou à l'intérieur. L'avantage de ces pâtes-là, c'est que c'est des pâtes qui, du coup, absorbent bien la sauce. Quand on met des sauces un peu liquides à l'intérieur, la sauce rentre à l'intérieur et du coup, ça gorge la pâte de sauce, ce qui permet de faire des préparations. Donc il y a beaucoup de préparations, notamment avec des pâtes comme ça, avec des sardines et des oignons. Ou des anchois et des oignons, donc on retrouve un peu les pâtes et le poisson, c'est un peu la grande association de la cuisine vénitienne, c'est assez pâtes et poisson. Allez, linguine à les vongole, on en a déjà parlé. Nero di seppia, c'est pareil. Donc là, les pâtes ont une couleur, je ne sais pas si vous en avez déjà mangé ou vu, cette couleur noire très caractéristique qui fait des assiettes absolument magnifiques, enfin très, très originales. C'est très bon, ça n'a pas un goût qui est extrêmement fort, mais ça nécessite quand même d'être plutôt mangé avec des plats de poisson. Donc il y a des pâtes qui sont déjà à l'encre de sèche. Vous pouvez acheter des pâtes à l'encre de sèche. Ou alors, rajouter de l'encre de sèche, que l'on fait en général diluer dans un petit peu d'eau, ou un petit peu de vin blanc selon les recettes, et qu'on met, ou alors dans certains cas, l'encre de sèche est assez un petit peu en pâte déjà, et on en met un petit peu dans des pâtes ou dans un risotto pour colorer le tout. Et après, ça marche bien avec des moules, ça marche bien avec crevettes, ça marche bien avec pas mal de choses. C'est un peu moins un pays de pâtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux produits qui monopolisent un peu l'attention, deux produits locaux. Le premier, c'est le riz. Et notamment, il y a quand même les provinces de Vercelli, qui sont les grandes productrices de riz. C'est pas si loin, c'est le Piémont, mais c'est pas très loin. Il y a un peu de quelques rizières, mais assez peu dans la région. Mais c'est des régions qui utilisent beaucoup le riz. Et notamment, dans les recettes du nord de l'Italie, on est pas mal sur le Vialone Nano, qui est un petit riz à risotto par rapport à l'Arborio ou Carnaroli, qui sont plus gros, qui tendent à être un peu plus utilisés dans le Piémont. Et notamment, le risotto à l'encre de sèche se fait, si on veut être très puriste, avec le Vialone Nano. Le troisième féculent, si on peut dire, parce que c'est pas tout à fait un féculent, c'est la polenta. Alors la polenta, c'est de la semoule de maïs. Mais plus la semoule est fine, plus vous tendez vers de la farine, et plus vous tendez vers de la farine, plus la farine est blanche. Donc partout en Italie et en Savoie et dans le sud de la France, on tend à manger de la polenta jaune. À Venise, la polenta est plutôt blanche. C'est pas de la farine de blé non plus, hein, mais elle est beaucoup plus claire. Alors la polenta, il y a deux écoles, on va dire, l'école classique, mais c'est de plus en plus difficile de trouver de la polenta crue, on va dire, classique. Là, vous prenez la semoule de maïs et vous touillez pendant 45 minutes, une heure, et vous espérez que ça prenne. Maintenant, de plus en plus, il y a des polentas qui sont des polentas pré-cuites, et polentas pré-cuites où vous avez quelques minutes pour la préparer. Et notamment, la polenta, ça fonctionne bien, donc on a dit tout à l'heure, avec la morue. Mais aussi énormément de plats, et quand vous montez dans les montagnes, dans le Frioul, énormément de préparations à base de polenta. Quand on va dans le Trentino, énormément de préparations à base de polenta. Et on n'a pas fait le Val d'Aoste, mais si on avait fait le Val d'Aoste, je pense que j'aurais passé la moitié de la soirée à vous parler de la polenta. Donc c'est vrai qu'on est plus sur cette culture là évidemment le nord, il y a plus de maïs que dans le grand sud. Donc on est un petit peu différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y a pas trop de pâtes. Il y a plutôt du riz ou de la polenta. Des questions, des commentaires, des... Non ? Ça va ? Alors, il y a pas mal de choses sur les viandes et les charcuteries. Alors là, pour le coup, ça dépend des régions. Là, il y a un petit peu de spécificité par région. On va commencer par, probablement le plus connu et le plus... pas forcément le plus cher, parce que la bressaola, je pense que ça lui rend bien. Mais dans les choses quand même plutôt d'exception, vous avez le San Daniele. San Daniele, c'est un village qui est dans le Frioul, pour le coup. Et c'est un village qui a une altitude et une hygrométrie qui est assez particulière. Et du coup, ça fait que le San Daniele, outre le fait que c'est une AOC avec des assez restreinte et assez contraignante en matière de race de porc, alimentation des porcs, âge, il faut qu'ils aient 9 mois minimum, il faut qu'ils fassent un certain poids, entre 155 et 175 kg, je crois. Il faut que la cuisse fasse autour de 11 kg, pas plus, pas moins, parce qu'il y a un petit pourcentage d'erreurs autorisées, mais pas plus, pas moins, parce que si elle est trop petite, elle est trop sèche, si elle est trop grosse, elle est trop grasse. Et surtout, le San Daniele, c'est le moins salé de tous les jambons. Et pourquoi est-ce que c'est le moins salé de tous les jambons ? Parce qu'en fait, les conditions de stockage et d'affinage qu'on trouve à San Daniele, c'est une AOC qui est très restreinte en matière géographique, font qu'on a besoin de moins de sel par poids de viande. Il y a des règles en fait pour saler. Si vous salez pas assez, votre viande est moisie. Si vous salez trop, c'est pas plus bon. Et en fait, San Daniele, vous arrivez à saler, on va dire, au minimum, parce que il y a une qualité d'air et d'hygrométrie qui fait que ça sèche plutôt, pas plus vite, mais mieux, avec moins de sel. Donc ça, à l'arrivée, c'est le jambon qui est le moins salé. C'est aussi un jambon, la façon de le saler et la façon de l'affiner fait que le gras ressort en fait. Et donc du coup, il n'y a que 3-4% de gras à l'intérieur du jambon, et sinon tout le reste du gras est à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur, si vous pouvez en dégraisser le jambon, il ne vous reste pas plus de pas trop de gras à l'intérieur. Donc c'est un jambon qui est plutôt un peu moins gras. C'est un jambon qui doit être affiné. Il peut commencer à postuler pour l'AOC à partir de 12 mois. Objectivement, si vous trouvez du Saint-Daniel de 12 mois, achetez du jambon d'Auvergne, parce que ça n'a aucun intérêt. Parce qu'à 12 mois, il est encore beaucoup trop cru. C'est des très grosses cuisses de jambon. À 12 mois, il n'est pas bon. Il commence à être bien à 16 mois, c'est déjà très limite. 18 mois, il est bien. 24 mois, il est très bien, mais il est hors de prix. Donc, non, mais bon. L'optimal, c'est autour de 18 mois d'affinage. Après, vous êtes sur des choses qui sont très spécifiques, qui sont bien aussi, parfois un peu plus sèches, mais l'écart de prix entre le 18 et le 24 ne justifie pas forcément ces 6 mois d'affinage supplémentaires. Mais le Saint-Daniel, c'est un jambon qui est quand même très, très, très particulier en goût, qui est plutôt très fin. Le deuxième produit, qui est un produit plutôt moins connu, on va dire, mais qui gagne aussi à être connu, c'est un produit du Trentino. Et c'est le Speck. Alors, vous allez me dire, le Speck, évidemment, ça n'a pas une appellation, pas un nom qui sonne très italien, tout ça. Non, et pour cause, ça, pour le coup, c'est typiquement un héritage autrichien, suisse, plutôt des pays germaniques, d'où l'appellation qui ne fait pas très italien. Alors là, vous avez une cuisse de porc, en l'occurrence, qui est désossée avant d'être légèrement fumée. Le Saint-Daniel, tout son affinage se fait avec l'os. Il est désossé à la fin. Et quand on vous dit que c'est un jambon qui a 18 mois d'affinage, c'est qu'il a été désossé au bout de 18 mois. L'affinage s'arrête le jour où vous le désossez. Après, vous pouvez le garder et le conserver un an, mais l'affinage s'arrête au moment où il est désossé. Le Speck, lui, pour le coup, est désossé tout de suite. Et après, il est salé au sel, sec aussi, puis est mis en saumure et fumé. Il est mis dans une saumure avec des herbes, avec des aromates, qui lui donne ce côté très aromatique, et il est légèrement fumé. L'avantage du fait de désosser avant de fumer, fait qu'au lieu de fumer sur très épais tant que ça arrive au milieu, comme vous désossez sur une distance qui fait 5-6 cm, le temps d'arriver au centre, c'est très peu fumé, du coup l'extérieur n'est pas complètement cramé. Donc ça fait un jambon qui est très légèrement fumé et pas fort. L'autre avantage du Speck, c'est que le fait qu'il ait été mis en saumure à un moment donné de son existence fait qu'il cuit mieux, on va dire, que les autres. Et autant si vous cuisez, ce qui est un peu crétin de cuire du Saint-Daniel, si vous avez une idée de cuire du Saint-Daniel ou du Parme, vous allez avoir le sel qui ressort énormément. Si vous cuisez du Speck, le sel ressort beaucoup moins. Du coup, si vous avez des recettes où on vous dit prenez du jambon cru et faites-le cuire, faites-les donc au Speck, vous verrez, ça va moins vous saler le plat et vous n'aurez pas ce côté, cette espèce de petite pelliculette de sel là, qui rend le truc tout sec. Avec du Speck, vous l'aurez beaucoup moins. Donc ça, c'est un produit qui se mange cru, qui se mange cuit, et il y en a énormément de variétés différentes pour le coup. Autant le Saint-Daniel, il y a une vingtaine de producteurs qui ont droit de produire du Saint-Daniel et qui peuvent postuler à l'AOC. Le Speck, il y a énormément de producteurs. Donc après, selon les producteurs, chacun y va de « moi j'ai mis un peu plus de laurier, moi un peu de romarin, moi j'ai mis ci, moi j'ai mis ça ». Enfin, surtout, personne ne vous dit ce qu'il a mis parce que c'est secret d'État. Donc il y en a des meilleurs que d'autres, mais à l'arrivée, c'est plutôt pas mal. La Bressaola, on change d'animal. Là, pour le coup, c'est du bœuf. La Bressaola, l'IGP de la Bressaola, c'était la Valtellina. Donc on est plutôt Val d'Aoste, mais vous en trouvez quand même...
Lombardie.
Oui, Lombardie, parce qu'au moment je dis Aoste, c'est pas ça. Théline, non, désolé. Vous êtes plutôt chez les Lombards. Mais il y en a quand même pas mal aussi dans le Trentino, beaucoup moins dans le Friuli. Donc vous êtes quand même. Vous sortez un tout petit peu de l'IGP, je crois qu'elle va jusqu'au début du Trentino, et après je crois qu'elle n'y est plus. La Bressaola, donc c'est de la viande de bœuf. La meilleure d'entre elles, c'est celle qui s'appelle Punta d'Anca. Punta d'Anca, c'est le muscle du haut de la pointe de la hanche. Pointe de la hanche. Alors évidemment, vous ne mangez pas l'os, mais le muscle qui est autour de la pointe de la hanche, c'est le muscle qui est le plus moelleux. Et du coup, ça vous fait une viande qui est assez moelleuse. Et assez souvent, en Italie, quand vous prenez un carpaccio, le carpaccio est fait à la bressaola, et pas forcément à la viande crue. Il y en a à la viande crue, mais assez souvent, vous faites un carpaccio avec la bressaola. Donc ça, ça ressemble un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, à la viande des grisons, qui est un peu plus connue, mais c'est moins sec que la viande des grisons, ça peut être même très moelleux, et c'est moins salé. Pardon ?
On en a en France,
le
Brésil.
Oui, le brosi, oui, c'est le même. De toute façon, le bressaola, ça vient du mot, je ne sais plus quoi, qui dit braise. Enfin, ça vient de la braise. Donc, le brosi, mon ami, on est un peu dans le même. On est dans le même style de viande de bœuf qui sont traitées comme une charcuterie. Alors, le zampone. C'est le cousin du zampone, c'est le côté quino. Le côté quino vient de Modène, le zampone vient de Vérone. Le zampone, c'est une forme de saucisson, on va dire, à cuire. Donc il n'y a pas trop de saucisses ou de saucissons à cuire dans la gastronomie italienne, il y en a un petit peu, mais pas trop, c'est surtout de la charcuterie crue. Là, en l'occurrence, le zampone, c'est plutôt de la charcuterie à cuire. Alors c'est pareil, le zampone qui n'est pas pré-cuit, vous pouvez passer la journée à le cuire, hein, parce que ça cuit 6-7 heures, facile. Et plutôt 8 que 7 d'ailleurs, enfin bon, en gros vous le mettez le matin pour le manger le soir. Est-ce que vous savez quand ça se mange, le zampone?
Alors,
ça, c'est... Oui, je l'ai marqué aussi. Le zampone, en fait, c'est l'aliment, le plat typique du soir de la Saint-Sylvestre, enfin, bon, peut-être un peu moins maintenant, c'est une zampone avec des lentilles. Pourquoi les lentilles? Parce que en Italie, comme dans le sud de la France, c'est signe de prospérité, de bonne année, riche et prospère. Et le zampone se mange avec. Donc bon, nous on est plutôt huître et foie gras, ils sont plutôt saucisson lentilles. Le zampone a la caractéristique d'être mis dans une forme de pied de cochon, en fait. Le zampone, il a une forme de pied de cochon. C'est un saucisson qui est assez gros. Hein. Le zampone, ça fait bien... ça fait bien 800 grammes, 1 kilo, c'est à peu près ce gabarit-là, assez large. Et c'est assez, ça ressemble un peu à un saucisson lion ou une morteau, assez, un peu plus gélatineux. C'est assez gélatineux, c'est assez riche. Hein. Vous en mangez un petit morceau, ça vous cale, ça va bien pour les soirées d'hiver. Ça marche bien avec des pommes de terre, ça marche bien avec des haricots blancs, c'est assez sympa. Mais alors ça, c'est très typique de Vérone. Le carpaccio, est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle carpaccio?
Oui. À cause du peintre.
Oui, voilà. À cause du peintre.
Vittore
Carpaccio. Et en fait, ce peintre-là est plutôt célèbre, voilà, pour ses rouges.
C'est rouge.
Et du coup, il a gagné le droit d'avoir son nom écrit sur tous les bouts de viande. Donc ça, c'est le... Le carpaccio, on en trouve plutôt dans le nord que dans le sud, pour une raison assez simple, c'est que dès que vous descendez dans le sud de l'Italie, il y a beaucoup moins de bœuf que la viande de bœuf fraîche. Enfin, il faut manger tout de suite, donc on est plutôt dans les contrées où il fait pas trop chaud, plutôt que dans le sud où il fait très très chaud. Et dernier élément dans la viande et la charcuterie, très très spécifique de Venise, le foie, et notamment le foie de veau. Fegato. Évidemment, le foie de veau à la vénitienne, qui est plutôt une des petites lamelles de foie de veau qui sont revenues avec des oignons, notamment. Mais c'est vrai que pour ça, c'est le grand. Beaucoup d'oignons d'ailleurs. Oui, il y a presque plus d'oignons. Enfin, c'est limite qu'il y ait plus d'oignons que de foie. Hein. C'est quand même assez. assez réparti. Là, il y a de la vraie jarre, là, oui. Donc, du coup, voilà, donc on parlait tout à l'heure du fait de rien gâcher, d'utiliser un peu tous les ingrédients. C'est vrai que dans beaucoup de régions, on utilise plutôt le veau que le bœuf, d'ailleurs, en Italie, assez souvent. Mais en Italie, on utilise, dans la région de Venise, beaucoup de recettes. Mais il n'y a pas que le foie à la vénitienne, il y a pas mal de recettes qui mettent du foie dedans, en fait, dans les recettes. Truc qui m'inspirait, enfin qui m'inspirait pas, je connaissais assez peu, mais j'ai trouvé énormément de recettes avec du foie dans la région de Venise, autre que le foie à la vénitienne avec tous ces oignons. Alors, les petites douceurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de gâteaux. Je vous en ai mis quelques-uns, mais alors ça, dans la région, qu'est-ce qu'il y a comme gâteau, hein ? Ça, on en mange pas mal. Pas trop de glace, un petit peu, mais pas trop. C'est moins une culture de glace que dans d'autres régions. Mais énormément de gâteaux. Le plus connu, c'est probablement le tiramisu. Alors, beaucoup de, rumeurs ou idées d'où peut venir le tiramisu, parce que, bon, comme vous le savez probablement, si vous traduisez tiramisu, ça veut dire remonte-moi. Alors, après, selon les cas, vous pouvez dire le moral, vous pouvez dire autre chose. Enfin, bon, après, il y a différentes versions, dirons-nous. Donc vous avez des versions disant que ça avait été créé dans la région de Trévise à côté d'une maternité et que c'était ce qu'on donnait aux femmes qui venaient d'accoucher pour les requinquer, parce que bon, c'est quand même un gâteau qui est plutôt riche, entre le mascarpone, les œufs, du café, du chocolat. Vous avez une version qui disait que ça a été créé à côté de Maison Close pour remonter, bon, je ne vais pas vous faire de dessin, un petit peu d'autres circonstances où il y a besoin d'être revigoré. Il y a une troisième version, alors je ne sais pas quelle est la vraie, je vous les donne toutes. Hein. Une autre qui disait que c'était aussi créé dans la région de Venise, je ne sais plus quel roi qui était un peu faiblard, on lui avait créé ça pour le... revigorer un peu, qu'ils soient un peu moins faiblards et un peu moins mollassons. Donc bon, enfin toujours est-il qu'il y a quand même un accord pour dire que ça a dû être créé dans ce coin-là. C'est la bonne région. Après, selon les rumeurs ou les options, vous avez des créations plus ou moins osées, dirons-nous. L'autre produit un peu phare de la région, et notamment de celle de Vérone, parce qu'il y a pas mal de choses quand même dans la région de Vérone, c'est le pandoro. Alors le pandoro, c'est, on va dire pour faire simple, un peu comme le panettone, mais il n'y a pas de raisin et il n'y a pas de fruits confits. C'est une brioche assez aérée. Et alors c'est une brioche qui a la caractéristique, elle s'enneige. Le pandoro, quand vous l'achetez, vous achetez un pandoro et vous avez dedans un petit sachet de sucre glace. Donc pour avoir le pandoro qui va bien, il faut mettre le sachet de sucre glace dans le gros paquet, vous secouez, vous le laissez près d'une source de chaleur pendant un petit moment, et là du coup ça vous fait le glaçage extérieur. Alors la forme du pandoro fait l'objet d'un brevet. Elle a été déposée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un gâteau, enfin sinon vous pouvez être accusé de plagiat si vous créez un gâteau qui a cette forme en étoile. Donc il y a une circonférence, une hauteur, enfin c'est très sérieux, on ne rigole pas avec ça. Donc je voulais vous en amener un, mais je les reçois que jeudi, donc du coup je vous ai apporté un panettone. Bon, c'est pas grave, ce ne sera pas le pandoro, je ne les ai pas encore. Il y a beaucoup de gâteaux, notamment dans la région de Venise, j'en ai mentionné que deux, qui sont les gâteaux du carnaval. Évidemment, à la période du carnaval, énormément de gâteaux, et alors de manière assez drôle, enfin je pense que c'est aussi lié à ce qui est disponible à cette époque-là de l'année, tous les gâteaux de carnaval finalement se ressemblent un peu, quel que soit le pays, ou quel que soit le... Vous avez toujours des vagues trucs qui ressemblent aux bugnes, enfin après vous appelez ça comme vous voulez, mais des espèces de beignets, il y en a toujours quelque part, quel que soit le pays ou la région où vous vous mettez pour le carnaval, il y a toujours des trucs dans ce genre-là. Et vous avez toujours des espèces de petits gâteaux dans plein de régions aussi où on met des petits raisins secs, des espèces de petits des saletti, c'est un, pas vraiment un sablé, mais c'est une espèce de petit gâteau, un peu petit gâteau sec avec des raisins à l'intérieur. Donc il y a pas mal, de gâteaux. Il y a aussi tout ce qui est, et ça c'est très propre à Venise, c'est les brochettes de fruits caramélisées. Ça c'est très très vénitien. Ça s'appelle caramelli, c'est très. Alors ça pour le coup j'ai trouvé ça sur Venise, nulle part ailleurs. Petites brochettes de fruits qui sont trempées dans du caramel et qui sont qu'on mange froide. Alors fruits frais ou fruits secs? Alors, le fruit sec au caramel, ça doit être bien sucré. Hein. Vous prenez la brochette de figue séchée au caramel, ça doit quand même tenir au corps. Alors, on arrive sur les vins. La Frioul, il y en a un petit peu. La région des lacs, il y en a un petit peu aussi. Mais la Vénétie, c'est 12 ou 13% de la production viticole italienne. Donc sachant qu'il y en a quand même un peu partout, c'est pas neutre, parce que ça représente quand même beaucoup. 12%, c'est pas mal, parce que bon, vous avez évidemment les grosses productions de Piémont, de Toscane, mais dans quasiment toutes les régions, vous avez du vin, et du vin en quantité importante. Dans les vins rouges, on va dire, les deux plus connus, c'est deux vins plutôt légers, Valpolicella et Bardolino, qui sont des vins qui sont faits avec en général un mélange de cépages. Ce n'est pas des vins monocépages du tout. Il y a pas mal de cépages différents qui peuvent intervenir. Le Valpolicella, si vous voulez en boire un qui soit correct, il vaut mieux le choisir Classico. Classico, c'est un peu comme le Chianti. Comme c'est des appellations qui ont un peu été galvaudées, on va dire, ils sont revenus en fait à l'appellation originelle en termes de géographie, parce qu'au bout d'un moment, vous pouviez faire du Valpolicella, enfin peut-être pas dans la moitié d'Italie, mais ils avaient tellement étendu la géographie que vous pouviez en faire à peu près n'importe où. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, on fait n'importe quoi, ce qui n'est pas faux. 90% des Valpolicella ne sont pas bons, donc on va essayer de mettre un peu d'ordre, mais après, vous ne pouvez pas empêcher les gens de refaire du vin. Donc du coup, ils ont fini par revenir à l'appellation originelle et de dire, celui-ci, il a le droit de s'appeler Classico. Donc celui-ci en général est plutôt mieux. Bardolino, là vous êtes aussi sur des vins très fruités, sur des fruités assez légers, des fruits plutôt type groseille, type fruits rouges assez légers. A l'inverse, vous avez deux types de vins qui sont l'Amarone et le Valpolicella di Passo. Alors l'Amarone, c'est fait avec des raisins passeriers. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est des raisins qui sont séchés, passeriers. C'est-à-dire que vous récoltez les raisins, vous les faites sécher sur des clayettes, et après, vous les pressez.
Comme le vin de paille.
Le même principe pour du rouge. Alors, le Valpolicella, ça titre entre 15 et 17 degrés, selon les cas. Rien qu'à le sentir, vous n'avez pas la tête qui tourne, mais il y a des Amarone qui sont extraordinaires. C'est des vins qui sont extrêmement amples, qui sont des vins de garde en général, qui sont très très bien faits, mais c'est très très costaud. Et intermédiaire de ça, c'est le Valpolicella Ripasso. Vous prenez du Valpolicella et vous ajoutez du mou d'Amarone, vous repressez le mou d'Amarone. Donc ça, c'est une technique que on m'a dit que ça existait dans un autre... En France, apparemment, ça n'existe pas. On m'a dit que ça existait dans un autre pays, mais...
Mais bon... C'est un peu du ratafia. On rajoute dans le mou, on rajoute de l'alcool.
Non. Vous prenez du Valpolicella, donc d'existant, et vous repressez...
C'est sur le vin lui-même.
Le vin. Donc c'est que vin, c'est un vin, hein. C'est-à-dire que Non, c'est pas un vin doux, pour le coup, c'est un vin. C'est un Valpolicella un peu plus costaud. Ça, en alcool, c'est pas. Enfin, c'est 14-15, c'est plus qu'un vin normal, enfin classique, mais vous n'êtes pas dans le moins que la Amarone, et vous n'êtes pas dans le. Non, c'est pas un alcool, quoi. Enfin, c'est.
Mais ça se faisait aussi autrefois.
Oh, bah, je pense que ça a dû se faire.
C'est costaud, on mettait de l'alcool dedans.
Donc là, ils ne remettent pas d'alcool, en fait, ils repressent avec du mou d'Amarone. Donc ça, c'est des vins un peu particuliers, qui sont assez intéressants. Toute cette région-là est très connue aussi pour ses rosés. Et quand vous buvez un rosé italien, vous avez 9 chances et demie sur 10 qui viennent de soit de Vénétie, soit de la région des Lacs, soit du Frioul, soit en général, c'est plutôt par là que ça se passe. Énormément de production de rosé. Alors là, vous avez des choses qui sont extrêmement différentes. Vous avez des choses comme le Bardolino rosé, qui est un vin plutôt fruité, plutôt léger, ou avec un peu de corps selon les cas. Vous avez des Pinot Grigio, qui sont pour le coup des cépages traditionnellement de vin blanc, donc vinifiés en rosé, donc plutôt des vins très secs, un peu d'acidité, plus proche des vins blancs, pas du tout de fruits. Vous avez, quand vous allez quelque part et qu'on vous propose le rosé de l'été dans un resto ou une pizzeria italienne quelconque, en général, ça vient de par là. Ça vient de Vénétie dans quasiment tous les cas. Énormément de production de rosé. Ce qui a un côté économique assez intéressant, puisque le rosé étant en ce moment un vin qui tend à se développer un peu, c'est du coup une richesse, c'est pas très très compliqué à faire, c'est pas des vins très très chers, donc du coup c'est vrai que ça apporte aussi une richesse à la région. Des blancs, en termes de vin, c'est vraiment une gamme assez, enfin vin et alcool, c'est vraiment une gamme assez complète, on va dire, de tout type de vin. En blanc, vous avez du Pinot Grigio, donc c'est le même cépage de vin plutôt sec, un peu d'acidité. Vous avez le Soave, qui est assez connu aussi, qui est un vin qui est plus fruité pour le coup, sec mais fruité. Et c'est très bon, je trouve. Et alors après, voilà. Un peu la star, le plus connu quand même, parce qu'après vous avez le Franciacorta, qui ressemble un peu plus à du champagne, qui est aussi qu'on trouve aussi dans les régions du Nord, mais qui est moins connu. Le Prosecco, donc c'est un vin blanc sec, pétillant, qui peut être sec, qui peut être extra sec, selon les cas, qui est jamais moelleux, qui a un vin qui est, ça vaut pas mal de champagne, qui est assez agréable à boire, donc qui se boit soit tel quel, soit qui est la base de pas mal de cocktails. Et à Venise, notamment, on boit, et ça c'est le côté un peu, à la fois touristique, mais à la fois aussi ville riche, ville de découverte et de nouveaux goûts, on boit beaucoup de cocktails à Venise. Les deux les plus connus, on va dire, c'est le Bellini, qui est composé d'un quart de jus de pêche. Ça marche plus, oui.
Ah bon ?
Ouais, bon bah c'est pas grave, je vais crier, je crois qu'il marche plus. Bah je sais pas. Tout à l'heure il criait un peu, puis là d'un coup il... Bon.
1, 2, 3.
Oui, bah vous énervez pas, c'est pas grave, j'ai crié. Vous entendez là-bas ? Bon bah c'est bon, non mais j'ai assez de voix, ça va. Oui, bah vous embêtez pas, ça va. Donc je vous disais, le Bellini, c'est fait avec un quart de pêche blanche pressée et trois quarts de Prosecco. Donc ça fait un cocktail qui est très agréable à boire, surtout l'été. Le deuxième cocktail qui est très connu et qui est devenu très à la mode, c'est le Spritz, qu'on peut trouver. C'est d'influence un peu autrichienne, et en fait ça se fait avec du Campari ou de l'Apérol. L'Apérol étant moins amer que le Campari, mais c'est un peu le même genre de vin un peu rosé, un peu orangé. Et du Prosecco, et idéalement un trait d'eau de Seltz, donc d'eau gazeuse, et ça se sert quand vous allez à Venise avec une petite pique, avec une grosse olive verte. Vous avez une petite tranche d'orange et une grosse olive verte piquée dans la tranche d'orange, et là voilà, vous êtes en vacances. Donc ça existe aussi en tout fait. Donc pas mal, le Prosecco, c'est à la fois un vin, on va dire, qu'on boit tel quel, mais c'est aussi la base pour pas mal de cocktails. Dans toute cette région, et notamment dans les régions de montagne, vous avez énormément aussi de grappes. C'est vraiment les régions productrices de grappes, c'est vraiment par là. Après, vous avez des grappes dans toutes les autres régions, vous en avez des grappes de Barolo, vous avez des grappes de tous les vins, mais les plus connus, les plus... Le pays consommateur de grappes, c'est plutôt le nord de la Vénétie. Là, plutôt, on est vraiment dans le nord du nord, beaucoup dans le Frioul, pas mal dans le Trentino, donc c'est vraiment cette région là où on trouve des grappes. Alors vous avez une grappa qui est blanche comme toutes les autres vignes, et vous en avez qui sont ambrées. Selon les cas, vous avez la grappa blanche en général un peu plus costaud, moins fruitées, et celles qui sont brunes ou ambrées, qui pour le coup sont un peu plus fruitées. Et pendant qu'on est dans les cocktails, alors celui-là j'en avais jamais entendu parler, mais apparemment ça a l'air très connu. Je ne sais pas si vous connaissiez le Sgroppino. Alors c'est une espèce de cocktail qui est fait avec du sorbet citron, de la vodka et du prosecco. Ben, il remarche ? Bon, bah écoutez, c'était juste qu'il est bon. Bon, on va réessayer. Il était juste fatigué, il fait une petite pause.
Non.
Ah non, vous avez changé de truc ? Non, bon bah. Bon bah vous. Non, bon bah voilà. Donc le Sgroppino, apparemment, c'est un des grands classiques. Mais comme les cocktails, ça suit des modes et que tous les ans, ils en pondent un ou deux nouveaux qui reviennent à intervalles réguliers, il n'est pas impossible que ce Sgroppino, ce soit le cocktail de l'année, le truc revenu à la mode. Enfin, compte tenu du fait qu'il y a de la vodka, à mon avis, ça ne doit pas être un cocktail qui existe depuis des millénaires. Je pense que ça doit être un cocktail assez récent. Mais bon, je l'ai mis parce que tout le monde en parle. Dans toutes les littératures quelconques sur la gastronomie vénitienne, on tombe sur ce fameux Sgroppino. Mais je vous avoue qu'autant le Bellini Spritz, oui, mais les autres, j'en avais jamais entendu parler. Donc si vous non plus, bon. Le mystère.
L'ombre.
Pardon ?
L'ombre que le bois venise.
L'ombre.
L'ombre.
Umbra. UFDA.
Oui.
Qu'on voit à Venise de bas.
C'est du prosecco.
C'est du prosecco, oui, aussi, je crois. Mais je ne sais plus avec quoi.
Dans les petits bars vénitiens, on voit
l'ombre. Ouais, mais j'ai pas. Oui, c'est maintenant que vous me le dites, mais je l'ai vu nulle part ce truc en plus. Enfin, maintenant que vous le dites, je dis oui. Mais oui, c'est prosecco et. Et je sais pas quoi. Bon, bah, je chercherai, je vous dirai avec quoi il est fait l'ombre. Alors, ça, on va dire qu'on est passé au travers des grandes familles de produits qu'on trouve pas mal. Vous allez me dire, par rapport à d'habitude, il y a des choses qui manquent. Hein. On n'a pas parlé d'huile d'olive. Mais il n'y en a pas beaucoup par là. Il y a quand même une toute petite région où on fait de l'huile d'olive qui est particulièrement réputée, c'est la région du lac de Garde. Autour du lac de Garde, il y a un petit microclimat, on va dire, qui fait qu'il y a une petite production d'olive, mais qui est extrêmement restreinte. Donc il y a très peu d'huiles d'olive qui sont de très bonne qualité, des huiles assez fines, comme toutes les huiles du nord de l'Italie. On n'est pas sur des huiles fortes, on est plutôt sur des huiles assez fines, assez douces. Mais c'est une petite production, et c'est vrai que par rapport à toutes les autres fois où j'ai pu vous parler des huiles d'olive en long, en large et en travers, là, cette fois-ci, bon. Je crois qu'il ne veut pas. Hein. Bon. On va faire quoi. Bon, c'est pas grave. Donc, l'huile d'olive, là, il y en a un petit peu. Mais enfin, bon, c'était juste pour dire qu'on en parle quand même, parce que ça aurait manqué qu'on fasse un truc sur l'Italie sans en parler un peu quand même. Mais il faut dire que la cuisine de cette région-là, c'est plus une cuisine au beurre, une cuisine à la graisse, à la sougna, au sindou, à ce genre de choses. Qu'une cuisine à l'huile d'olive, c'est pas vraiment une tradition culinaire très bon. Il y en a évidemment, puis je présume que bon, aujourd'hui on en met partout dans tous les, enfin comme en France, mais c'est une tradition, on va dire, relativement récente. L'huile d'olive, c'est pas une région. Merci, troisième essai. Ah, bien. donc c'est beaucoup moins une région d'huile d'olive et de tradition d'huile d'olive. Dans les autres spécialités, des choses qui ne sont pas forcément typiques de la région, mais qu'on trouve de façon assez forte, mais très localisée, un peu toujours liée au même petit microclimat autour du lac de Garde, le limoncello. Pardon ?
Oui, mais non, c'est vrai que c'est très connu.
Oui, non, mais le limoncello, il est très connu dans la région de Sorrente. Là, vous en avez des quantités. C'est assez connu en Ligurie, vous en avez pas mal, le limoncello, dans la région de Gênes, dans les Cinque Terre, et par là, vous avez pas mal de limoncello. Après, vous en avez un peu nulle part en Italie, sauf autour du lac de Garde et dans la région de Vérone un tout petit peu. Enfin, on n'est pas très loin. Dans ce quartier-là, vous en avez un petit peu. En général, c'est des limoncello qui sont un petit peu plus acides, parce que les citrons du nord de l'Italie sont un peu plus acidulés que ceux de Sorrente, qui sont plutôt plus doux. Donc du coup, pour compenser l'acidité du citron, vous avez un produit qui est à la fois un petit peu plus sucré. Parce que du coup, pour compenser l'acidité du citron, On met évidemment de l'alcool, mais on met un peu plus de sucre. Donc celui de Sorrent tend à être un peu moins acide et un peu moins sucré que celui du lac de Garde, qui est un peu plus acidulé, un peu plus sucré. Dans les produits un peu spécifiques, vous avez la mostarda. Alors la mostarda, ce sont des fruits qui sont un peu confits, piquants. Donc ça, c'est des produits qui se mangent. L'usage le plus connu, c'est avec le bolito misto, qui est une espèce de pot-au-feu, on va dire, pour faire simple. Donc la mostarda di Cremone se mange, alors soit avec des gros fruits, des gros fruits entiers. Ça, c'est assez particulier, c'est un peu piquant. Enfin, ça a un peu le côté mou. C'est un peu des fruits à la moutarde, si vous voulez. Donc ça, ça se mange... Ou alors, après, vous en avez avec des petits morceaux de fruits, ou alors une espèce de gelée. Mostarda d'uva, mostarda de raisin, vous avez des trucs un peu comme... Ça fait un peu une gelée moutardée. L'autre usage de ça...
À quel moment on la mange, la mostarda, dans un repas?
Bah, la mostarda, vous mangez ça soit avec, par exemple, le bolito misto, qui est une sorte de pot-au-feu, ou alors avec le fromage. Ça marche assez bien avec des fromages affinés. Vous prenez un pecorino un peu costaud, un parmesan très affiné, des fromages de chèvre un peu forts, un peu comme vous mangeriez de la confiture de cerise noire ou des choses comme ça, ou de figues, avec du fromage. Donc vous êtes plus sur des utilisations soit viande un peu en ragoût, un peu bouillie, soit avec des fromages. Mais l'usage le plus classique, c'est avec le bolito misto. Dans la région, il y a pas mal de salades. Alors, vous avez la laitue rouge de Vérone, qui en fait, c'est ce qu'ils appellent la trévise en Italie, et ce que nous on appelle la... ce qu'on appelle la trévise en France, c'est la laitue rouge de Vérone, et le laliccio, qui est une espèce de chicorée, ça pour le coup c'est ça c'est celle de Trévise. Donc on mélange un peu en français, mais il y a pas mal de production de salade. Donc après vous trouvez ça aussi dans certains petits antipasti où vous mettez un peu de laliccio avec du speck par exemple, avec des choses comme ça. Il y a des salades, des antipasti qui sont faits à base de ça. Dans la région, il y a une production d'asperges qui est assez importante à Basso, je sais plus comment ça s'appelle, Basso Alto, ou Alto, oublie, je sais plus. Enfin bon, il y a un... apparemment c'est très connu, je n'avais jamais entendu parler. Non, dans plusieurs endroits, on vous dit qui ne connaît pas, bah moi. Puis bon, apparemment vous. Donc bon, on va dire il y a des asperges aussi.
C'est les petites asperges toutes minces.
C'est les petites asperges vertes. Oui, c'est pas les asperges. C'est plutôt les petites asperges vertes qu'on utilise. Donc on mange beaucoup en antipasti, mais qu'on met aussi dans le risotto, dans les plats de pâtes. C'est plus les asperges qui sont dans les salades. Il y a quelques fromages. Vous avez dit, on n'a pas parlé de fromage. C'est pareil. Je vais parler mieux. C'est pas les plus grands. Bon, l'Asiago, c'est un peu connu, mais honnêtement, c'est pas très intéressant. Montasio, voilà. Enfin, c'est des... Comment vous dire? C'est des espèces de tomes de montagne. C'est pas mauvais, mais c'est pas des fromages qui ont un goût extraordinaire. Non, mais autant, il y a plein de fromages. Hein. Quand on avait fait le Piémont, vous avez des choses comme le Taleggio, Gorgonzola, des choses comme ça qui sont super. Autant là, l'Asiago, le Montasio, voilà, c'est des... Enfin, c'est des fromages de montagne un peu, enfin, qui n'ont rien de particulier. La seule chose qui est à noter, c'est que le Grana Padano, qui est probablement la plus grosse production fromagère d'Italie, là aussi du Grana Padano, et oui, c'est toute la plaine du Pô, mais englobe aussi toute cette région-là. C'est-à-dire que pratiquement toute la région de Vénétie est habilitée à faire du Grana Padano. Donc c'est plus parce que c'est un des fromages les plus répandus que je l'ai mis. Après, le Grana Padano, vous en avez qui sont très affinés, qui sont exceptionnels. Et ben voilà, on arrive au bout de notre petit tour. Je pense qu'on a peut-être été un peu plus rapide que d'autres années. Non, on peut pas pareil, on se ferait quelques. On est à peu près dans la plaque. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Sinon, je vous ai apporté à grignoter. un panettone, donc désolé, je n'avais pas encore les pandoro. Je vous ai apporté du speck, parce que je me suis dit que bon, ça vous connaissiez peut-être pas. Et puis je vous ai apporté un peu de grana padano, parce que l'Asiago et le Montaggio, on n'en a pas. Voilà, donc si vous avez des questions, j'y répondrai avec joie. Sinon, on va grignoter un petit morceau. Merci de votre attention, en tout cas.
Dans le Bretagne, il y a aussi une production de pommes.
Oui, tout à fait, oui, je ne les ai pas mentionnées, et c'est vrai que je voulais les rajouter, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pommes dans le Trentin. Et ils font aussi des alcools, des jus, et il y a beaucoup de gâteaux. Alors là, pour le coup, c'est assez d'influence, on va dire, autrichienne, des espèces de strudel aux pommes. Enfin, et d'ailleurs, dans les appellations, c'est assez germanique. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le strudel, justement, où il y a pas mal de gâteaux aux pommes et d'utilisation de la pomme.
Il faut dire que le Rotadige, quand même, autrichien pour
un juif. Ça a été plus, si on prend l'histoire longue, ça a été plus autrichien qu'italien. Hein. Enfin, ils ont été plus souvent autrichiens qu'italiens. Donc c'est vrai que vous avez le speck, le strudel. C'est vrai que quand vous regardez les spécialités, et oui, les pommes, c'est vrai que je ne les ai pas mentionnées parce que je voulais les remettre et je les ai oubliées, autant pour moi.
Les champoux sans Daniel.
Oui.
On en trouve partout. Est-ce que vraiment vous avez l'air de dire que c'était une production limitée quand même, une appellation limitée?
Oui.
Est-ce que vraiment ce qu'on trouve sous cette appellation-là, c'est...
peut s'appeler du sang de Daniel. Il y a 21 producteurs habilités à faire du sang de Daniel. Après, ils peuvent en faire quand même beaucoup. C'est-à-dire que bon, il y a quand même une production qui n'est pas petite. Après, le sang de Daniel peut avoir droit à l'appellation après 12 mois. Il y a eu tout un tas de débats il y a quelques années de ça pour dire 12 mois, honnêtement et objectivement, c'est pas suffisant. Donc est-ce qu'on augmente les exigences pour faire l'AOC à partir de 16 ou 14 ou 18 mois? Enfin, après, il y a eu tout un débat à ce niveau-là. À aujourd'hui, il y a eu une certaine pression parce qu'économiquement, garder votre camelote pendant 18 mois avant de prétendre à l'AOC, c'est plus difficile. Donc du coup, il y a eu toute une pression pour ne pas le faire. Quand vous discutez avec des chefs ou des gens qui connaissent un peu, ils vous disent tous que du sang Daniel de 12 mois, c'est pas terrible. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 12 mois, ils sortent dans le commerce ceux qui sont prêts ou ceux qui vont mal vieillir. Donc quand vous prenez du sang Daniel qui a 12, 13 ou 14 mois d'affinage, objectivement, il n'est pas assez affiné, mais ils ne pouvaient pas faire mieux, quoi. Donc du coup, quand vous prenez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure un peu en plaisantant, mais c'est pas qu'une plaisanterie, si vous avez du sang Daniel de 12 mois quelque part, prenez du jambon d'Auvergne, hein. Parce qu'honnêtement, mais c'est pas pareil, ça sera même mieux, parce que pour le coup, vous allez avoir un jambon qui a le goût de cru très fort, vous n'aurez pas l'affinage nécessaire, donc après, évidemment, c'est pas le même tarif, parce qu'il a la OC, parce qu'à partir de 12 mois, il peut l'avoir, mais vous êtes quand même loin d'être dans le jambon, dans le sang Daniel tel qu'il devrait l'être. Alors je sais qu'il y a eu un débat il y a une dizaine d'années, ça avait peut-être pas tout à fait 10 ans, parce qu'on non, ouais, évidemment. Bon, voilà, a priori ça a un peu botté en touche, parce que pour un certain nombre d'intérêts, et puis bon, ils veulent pas tout changer. Pour bouger une AOC, c'est pire que de bouger une montagne. Vous en avez pour 500 ans. Les intérêts des uns des autres font que. Mais honnêtement, avant 16 mois, vous avez aucun intérêt à prendre du sang Daniel. Donc oui, il y en a partout. Non, c'est pas toujours le même.
Alors, comment on le sait quand on va acheter?
Normalement, c'est marqué dessus. Après, dans plein d'endroits, on oublie juste de vous le dire. On va dire que ceux qui le savent et ceux qui savent pourquoi ils ont choisi un jambon un peu affiné, ils vous expliquent pourquoi. Enfin, ils vont le dire. Ceux qui le disent pas, c'est que soit ils savent pas, soit ils n'y ont pas réfléchi. Et s'ils n'y ont pas réfléchi, il y a 9 chances et demie sur 10 pour qu'ils le choisissent en fonction d'un critère de prix. Effectivement, hein. Enfin, quand vous achetez, même nous chez nos fournisseurs, si vous achetez du sang Daniel du 12 mois ou du 18 mois, c'est presque du simple au double. L'écart de prix, c'est quasiment du simple au double. Donc quand vous, en plus, quand vous êtes sur du 18 mois, vous avez des jambons qui sont plutôt un petit peu plus gros, donc ont un peu plus de gras, donc un peu plus de pertes. Donc quelque part, enfin, bon, à un moment, il y a souvent, pas toujours, et puis après, vous pouvez aussi tomber sur un lot de jambons bien affinés qui soit dans un supermarché pas trop cher. Mais bon, en général, enfin moi, je sais que je regarde parce que j'arrive à trouver où c'est marqué. Souvent, c'est 12-14 mois. Après, il y en a qui sont pas mal à 12-14. Hein. Il y en a qui sont prêts, qui sont bien, mais pour le coup, vous allez tomber sur un jambon qui est pas mal, trois qui ont le goût cru et un qui est un peu, un qui est un peu séché. Quoi. Vous disiez, là, vous voulez
dire ? Oui, je voulais vous dire que c'est dimanche matin sur France Inter, il y a une émission consacrée avec deux grands cuisiniers italiens qui sont établis à Paris. Sur la cuisine vénitienne avec plein de recettes.
Oui, mais c'est ce que madame disait aussi tout à l'heure. Il y a une dame qui m'a dit ça. Ben, j'ai pas, moi, dimanche matin, j'étais au magasin. Donc, je l'ai pas entendu, mais je vais essayer de la récupérer parce que oui, ça m'intéresse.
Et vous, vous vendez lequel ?
Nous, on a du 18 mois.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a, regardé, honnêtement, on en a beaucoup discuté avec aussi des chefs italiens, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il semble y avoir quand même une certaine unanimité pour dire qu'en dessous de 16, faut pas. 18, c'est bien. 24, c'est très cher. Et honnêtement, bon, enfin, faut quand même mettre après assez spécifique. Enfin, faut les manger l'un à côté de l'autre pour vraiment voir la différence. Donc nous, sachant qu'on a du culatello qui a affiné 24 mois, on essaie aussi d'avoir une gamme de choses qui soient un peu différentes.
Tous les ans en Italie, il y a un salon du vin très important, et c'est justement à Vérone.
C'est à Vérone, oui. C'est, on va dire, je serais assez curieuse, j'ai pas regardé ça, mais il faudrait que je regarde. Je suis assez convaincue que si on prend le pourcentage d'exportation de la région par rapport à la production, je serais pas surprise que la Vénétie soit supérieure aux autres régions. Parce qu'en fait, même si la Toscane ou le Piémont sont probablement plus grosses productrices, en termes de pourcentage, quand vous regardez, enfin ne serait-ce qu'en France, vous allez dans n'importe quel restaurant ou pizzeria italien, vous avez 90% de la carte, c'est du vénitien. C'est du vin de Vénétie. Tous les rosés, c'est du. 9 sur 10, c'est de la Vénétie. Tous les Bardo, c'est du Vénétie. Tous les Valpolicella, c'est de la Vénétie. Et en général, ils ont une carte avec 10 vins. Il y en a 8 qui viennent de Vénétie et 2 qui viennent d'ailleurs. Donc, je ne serais pas surprise qu'en termes d'exportation, ce soit une des premières régions exportatrices en proportion par rapport à leur production.
En volume,
en valeur, non, ça avance pas. Hein. Alors après, bon, il y a quelques années de ça, il y a eu tout un scandale où ils mettaient un peu n'importe quoi dans les vins. Après, quand vous achetez, enfin, dans le vin, ce qui coûte très cher, c'est le transport. Vous avez un coût de transport qui est non négligeable. Donc quand vous achetez chez un fournisseur en France du vin à moins d'un euro la bouteille, quand vous enlevez le prix du transport, vous vous dites que le mec, au départ, il n'a pas eu grand-chose. Hein. Donc s'il n'a pas eu grand-chose, c'est qu'il n'a pas mis grand-chose. Hein. Faut pas. C'est juste la vraie vie. Donc il y a quelques années de ça, ils s'étaient rendu compte qu'ils avaient foutu n'importe quelle merdouille, y compris d'huile de vinange, des trucs. Fin... Ah non, mais il y avait des trucs. Mais il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années. Ouais, non, parce qu'on avait déjà ouvert, donc ça devait être il y a 5-6 ans. Ils avaient trouvé des trucs pas nets dans les vins de Vénétie. Les rosés, ils étaient colorés. Ah oui, non, mais bon, bah, malheureusement, il n'y a pas. Enfin, malheureusement, ça existe et que, bon, il y a souvent une raison à tout quand même. Hein. Surtout, mais oui, non. Les vins de Vénétie, ils avaient un peu mauvais stress et pas que avec raison. C'est pour ça qu'il faut quand même un peu choisir. Le Valpolicella, prenez le Classico, déjà, vous limitez un peu les dégâts. Et les Bardolino, il y en a des biens, il y en a des pas bien, mais honnêtement, on en a goûté, enfin, ils ont fini. Dans l'évier, plus vite que de raison. Vous avez une question là ? Non ? Oui.
Moi je voulais juste demander le Lardo di Colonnata. C'est bien par ici ?
Non, Toscan.
Ah, c'est Toscan.
Avant, Toscan. Colonnata, c'est dans les Marbre, c'est à côté de Carrare. Donc c'est le nord de la Toscane. Le Lardo di Colonnata. Alors par contre, je sais pourquoi vous dites ça. Enfin, à mon avis, vous confondez avec un autre. Le Lardo di Colonnata, ça vient de Colonnata, qui est un village à côté de Carrare, donc dans les Marbreries blanches. Et le Lard était historiquement mis dans les jarres de marbre par les carriers, avec des herbes et des aromates, pour l'affiner, pour qu'il devienne plus digeste, pour qu'il puisse le manger plus tard. Donc ça, c'est Carra. Par contre, vous avez dans cette région-là, et notamment, c'est dans, je ne sais plus si c'est le Val d'Aoste ou le Trentino, j'ai un lard qui s'appelle le lard d'Arnade, qui ressemble un peu au lard de Colonnata, qui est on va dire, c'est le même principe de lard très gras, qui est un lard affiné et qui vient, j'ai un doute, mais enfin, c'est nord-est, ça c'est sûr, mais je ne sais plus. Mais ça s'appelle le lard d'Arnade. Donc c'est peut-être avec ça que vous... Parce que là, pour le coup, celui-là, il est de la région. Je crois que c'est... je crois que c'est Val d'Aoste, Arnade. Il est blanc, avec un tout petit filet. Lard d'Arnade, c'est pareil. Mais il ressemble au lard de Colonnata. Il a un peu moins de... Il a un peu moins d'herbe sur le dessus. Il est moins... C'est plus un lard nature. Le lard de Colonnata, il est très... Il est affiné avec énormément d'herbes, d'épices, d'aromates, de choses comme ça. Et le lard d'Arnade, il est plus lard gras classique. Il est très affiné, mais il est pas, il a pas toutes ses herbes. Mais c'est, enfin, c'est nord de la Toscane, nord-ouest de la Toscane. D'autres questions ? Non, bon, on va manger. Merci à vous en tout cas. Merci. Comme vous voulez, soit les gens viennent, soit on fait pas, bah on fait passer ça, puis je coupe le panettone, vous viendrez le manger en dessert. Voilà. Alors, je vais apporter un couteau. Donc ça, c'est du speck, et ça, c'est du grana padano. Le grana padano, celui-là, il est affiné 18 mois. Oui.
Ça, c'est le
spex. Ça,
c'est le spex.
Bah, c'était un peu, j'étais un peu frustrée. Il est un peu moins. J'ai trouvé un peu moins d'anecdotes et de choses et de. Il y a un petit peu moins. Bah, on a fait le tour. On a commencé par les régions les plus. Le spec, c'est très très bon. Le spec, c'est bon. Ouais, très bien.
Alors vous allez venir ici pour voilà.
Le panettone.
Les pandoro.
La pandoro, non, je les ai pas reçus.
Non, là, c'est le panettone.
Ah, le panettone, c'est milanais, on n'est pas très loin. Et non, je pensais les recevoir la semaine dernière, et puis bon. Ils n'étaient pas là.
C'est pour ça que j'ai